Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Seconde émission sur l'art du discours. Nous retrouvons Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Et vous en étiez donc à la lecture de ce dialogue, donc lecture un peu difficile parce qu'il faut alterner les arguments donc de Socrate et de Gorgias. Et je vous propose de reprendre tout de suite, hein, parce qu'on a bien défini, vous avez bien défini que l'art du discours comme technique, la rhétorique comme technique. Donc on reprend Socrate contre Gorgias.
Oui, alors je reprends ce que j'ai proposé. J'ai une initiative en quelque sorte. Je reprends le thème déjà avancé dans la première émission de la rhétorique, c'est-à-dire d'un discours, ou plutôt d'un art du discours persuasif qui doit présenter une efficacité décisive dans un domaine qui est celui de la politique. Nous allons le voir, des tribunaux aussi. Il s'agit pour l'art du discours de parvenir à persuader, à convaincre un public. Alors, nous avions commencé à lire de manière un peu succincte. La présentation est difficile parce qu'il s'agit d'un dialogue que Platon consacre à Gorgias, dialogue dans lequel Socrate, le philosophe par excellence, puisque c'est la philosophie qui naît à cette époque, entretient ou s'entretient avec Gorgias, le magnifique orateur venu, rhéteur, venu de Sicile, pour présenter toutes les ressources de son art aux jeunes gens d'Athènes. Donc, Socrate interroge Gorgias d'abord de telle sorte qu'il puisse définir de manière rigoureuse son art. Le mot « art », c'est le mot « techné », hein, qui désigne une pratique, mais une pratique qui est à la fois rationnelle, hein, au titre d'une raison engagée dans les choses, dans les événements, dans les causes, mais cette pratique « techné » a aussi vocation à être enseignée, à pouvoir être enseignée. D'où la question centrale est-elle une science, la rhétorique, c'est-à-dire l'art oratoire, est-il une science ou bien est-il justement une pratique qui n'aurait pas cette qualité, je dirais presque logique, presque scientifique de ce qui doit être destiné à l'enseignement. Puisqu'il ne peut pas y avoir d'enseignement s'il n'y a pas tout de même une espèce de ressource d'intelligibilité à la pratique que l'on effectue. Alors, c'est un peu compliqué.
Pour Socrate, la rhétorique n'est juste une pratique.
Alors, nous verrons que pour Socrate, la rhétorique n'est pas une science. La rhétorique est une pratique, et une pratique qui ne vise pas, contrairement à ce que prétend Gorgias, à introduire un référent qui serait la justice. Hein, le discours devrait idéalement proposer ce qui est juste. Le discours ne peut, selon Socrate et Platon, hein, bien sûr, le discours ne peut malheureusement ou tristement ne présenter au public auquel il s'adresse que, disons, des incitations, des décisions à venir qui relèvent du vraisemblable, seulement du vraisemblable. Autrement dit, la relation au vrai, au juste, est perdue.
On parlait dans la première émission de l'actualité et ça nous fait penser à certains discours politiques actuels.
Oui, oui.
Bon, ce n'est pas la question,
n'entrons
mais
n'entrons pas dans ce douloureux problème de la valeur de justice et de vérité des discours qu'on nous administre. Bien. La question donc revient. Gorgias prétend que la rhétorique, eh bien, ce qu'il y a de meilleur, cela relève en quelque sorte de toutes les possibilités de l'excellence humaine. Voilà, il n'y a rien de plus grand bien que précisément la rhétorique. Gorgias dit ceci, c'est celle, la rhétorique, c'est la profession, c'est celle qui est réellement le bien suprême, celle qui donne à qui la possède la liberté pour lui-même et la domination sur les autres dans sa patrie. Alors, on voit tout de suite ce que Gorgias glisse, la finalité de la rhétorique, de l'art oratoire, consiste à dominer, c'est-à-dire à récupérer en quelque sorte, au cœur de la démocratie, un principe aristocratique. Un mot quand même, cette domination n'est pas violente. En tout cas, elle ne prend pas la forme de la force déchaînée, au contraire. Alors, Gorgias définit, et nous le verrons avec Aristote, Aristote reprend ces termes, qu'est-ce que la rhétorique ? Voilà, enfin une définition. J'entends le pouvoir de persuader par le discours, les juges au tribunal, les sénateurs au conseil, le peuple devant l'assemblée du peuple, de même dans toute autre réunion qui soit une réunion de citoyens. Donc nous voyons bien, c'est ce qui c'est les trois scènes où agit cette parole performative de la rhétorique, de l'art oratoire, disons, le tribunal. Donc au tribunal, l'avocat de l'accusation ou de la défense doit présenter des arguments. Hein, il ne peut pas y avoir de plaidoirie sans des arguments entre parenthèses où la défense et l'accusation se jouent l'une contre l'autre et parfois en miroir. Bon. Deuxièmement, la rhétorique s'exerce au conseil. Alors, le conseil en Grèce, c'est le conseil
c'est
du...
La boulée.
La boulée. Hein. Donc, les sénateurs sont animés en quelque sorte d'un désir d'agir, et cet désir d'agir leur est suggéré par l'un d'entre eux qui dispose, disons, du plus grand talent dans l'éloquence. Enfin, la troisième possibilité, c'est celle qui consiste à parler alors devant l'assemblée du peuple, l'ecclésia. Donc, l'orateur parle aussi devant tout le peuple, et pas simplement devant des institutions, je dirais, déterminées comme celles du tribunal et du conseil. Tout le peuple. Et d'ailleurs, c'est un problème. Parce que si la rhétorique a en effet des effets de persuasion devant le peuple est présumé, au moins dans la pensée, je dis bien platonicienne, comme n'ayant pas une véritable approche du vrai ni du juste. Hein. Le peuple se laisse flatter, se laisse circonvenir dans la mesure où l'orateur peut faire appel à ses passions. Hein. Donc, autrement dit, la prétention de Gorgias à enseigner par-delà les techniques rhétoriques une certaine idée de justice est absolument détruite. Hein. Quant à la vérité, après tout, et Gorgias l'avoue, certains rhéteurs, certains orateurs, eh bien, j'irais falsifier l'idée qu'ils ont a priori de la vérité pour faire droit, je dirais, aux passions de la foule. Et on voit bien comment, avec la critique de la démocratie athénienne, c'est bien ce qu'on appelle en termes modernes la démagogie qui est en cause. Autrement dit, le discours rhétorique peut très souvent dégénérer sous la forme de la démagogie, du discours démagogique. Et ça, nous l'avons vu dans toute l'histoire de la parole humaine. Je vais peut-être m'arrêter là, c'est un peu dommage, mais je ne peux pas aller un peu plus loin si je veux passer
on a bien compris
à ma deuxième étude.
Les critiques de Socrate.
Oui, mais la critique de Socrate suppose que la philosophie pense au-delà de la vie politique, au-delà de cette scène où s'exercent justement des paroles qui peuvent être plus ou moins authentiques, plus ou moins flatteuses. Du reste, Socrate compare dans un discours. Alors là, il s'agit bien d'un discours. Socrate compare la rhétorique à la cuisine, parce que la cuisine est une falsification de la médecine, c'est-à-dire la diététique, alors que la rhétorique, elle, est une falsification de la justice. Bon, quant à savoir ce qu'est la justice, c'est une autre question que s'approprie Platon ailleurs.
Alors nous parlons justice et nous avons choisi d'illustrer ces deux émissions sur l'art du discours par les musiques qui ont été choisies par une réalisatrice, Justine Triet, dans son film qui a beaucoup de succès, Anatomie d'une chute. Dans la première émission, nous avions écouté Asturias d'Albéniz. Et dans cette émission, nous allons écouter le prélude en mi mineur de Chopin. Alors, quel lien faites-vous
entre musique, cinéma et procès, entre parenthèses, je crains de ne pas avoir le temps d'en parler, mais il se trouve que très récemment, nous avons vu deux films qui concernent un procès. Tout se passe comme si. Le procès, je viens d'en parler, la scène de tribunal permettait de caractériser de manière extrêmement vive et essentielle le scénario d'un film. Alors, je pense à L'anatomie d'une chute, de Justine Triet, et surtout au procès Goldman de Cédric Kahn. Alors, j'ai proposé, de concert avec vous, Sylviane, j'ai proposé la musique du film de Justine Triet.
Voilà. Et donc, nous écoutons Chopin, prélude en mi mineur, puisque dans le film, il y a le jeune garçon qui a une très mauvaise vue et qui joue du piano. Et c'est chargé, bien sûr, de beaucoup d'émotions. Sur Radio Alliance Plus, nous en venons avec François Gernot, donc à Aristote, pour parler de cet art du discours, c'est-à-dire de la rhétorique.
La grande synthèse réflexive sur l'art oratoire, la rhétorique, apparaît dans des cours d'Aristote, qui d'ailleurs ont pour titre la rhétorique, c'est un titre ultérieur. Que fait Aristote ? Eh bien, Aristote, d'abord, lui, définit la rhétorique. Il définit la rhétorique bien comme une techné, c'est-à-dire comme un art, mais un art qui a en quelque sorte sa dignité, une éminente dignité, et qui peut relever d'une méthode extrêmement rigoureuse dans la prise de la parole. Alors, il est clair que la rhétorique a toujours pour fin Il s'agit d'un art méthodique, disais-je, mais d'un art méthodique du discours persuasif. La fin de la rhétorique consiste à convaincre et à émouvoir. Alors, convaincre et émouvoir, comment ? D'abord, chapitre 2, Aristote déclare ceci. La rhétorique est la capacité de discerner dans chaque cas, je dirais pour chaque cause, ce qui peut être persuasif. Donc, il s'agit de sélectionner des arguments de telle sorte que la parole, le logos, la prise de voix, en quelque sorte, de l'orateur soit efficace. Il y a toujours ce souci d'efficacité qui concerne toute espèce de technique. Donc, la persuasion consiste essentiellement à faire croire. Donc, apparaît le mot de croyance, pistis. Alors, la rhétorique, pour Aristote, comme pour Gorgias, relève du discours. Alors, cependant, il y a des données sur lesquelles vont se fonder le système d'argumentation de l'orateur. Il y a des données qui ne relèvent pas, elles, du discours. Alors, ce sont les témoignages, ce sont les dépositions, et ce sont, par exemple, tout le matériel écrit sur lesquels on se fonde, on va le voir, essentiellement dans la procédure des procès.
C'est pour ça qu'on a choisi des musiques du film.
Tout à fait, tout à fait. Alors, la rhétorique, elle suppose trois éléments, donc. Le premier élément, la rhétorique, et nous sommes ici du côté des accessoires, la rhétorique dépend de la qualité éthique de celui qui énonce le discours. Autrement dit, l'orateur doit jouir d'un certain prestige. Alors, ce prestige tiendrait à ethos, à ses valeurs morales. Bon, c'est vrai qu'on n'écoute pas de la même manière un tel ou un tel. Deuxième point, la capacité de l'orateur consiste à susciter la persuasion. Il s'agit pour lui de faire accepter ses paroles. C'est l'adduction de ces idées de telle sorte que le public adhère à son entre guillemets raisonnement. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'art oratoire sans un public. Il faut l'orateur, il faut le public, et nous dit Aristote, il faut aussi la cause. Enfin et surtout, cela est l'essentiel. Le propre de la rhétorique, comme d'ailleurs le disait Gorgias, concerne le discours en tant que tel. Alors, le discours en tant que tel, il suppose, pour qu'il puisse y avoir cet effet qui consiste à contraindre et émouvoir, il suppose un certain type d'argumentation. Alors, cette argumentation, elle se différencie nettement de la démonstration sur des objets nécessaires, comme c'est le cas en mathématiques. Par exemple, une démonstration mathématique part de principe et donne un résultat qui relève de la vérité. La finalité d'une démonstration mathématique, c'est bien produire du vrai. Il n'en va pas de même de l'art oratoire. Dans l'art oratoire, il faut utiliser d'une argumentation qui a sa logique, mais d'une certaine manière une logique faible, parce que les éléments de départ relèvent effectivement du caractère tout à fait, je dirais, circonstanciel de la cause, et la finalité elle-même consiste à prendre une décision qui ne peut pas être assurée en certitude. Je vous propose une petite note narrative, elles sont rares chez Aristote. Voici ce que je veux dire. C'est par exemple ceci. Comment serons-nous en mesure de conseiller aux Athéniens de faire ou de ne pas faire la guerre si nous ne savons pas ce qui fait leur puissance? Est-ce la flotte ou une armée de terre? Ou les deux? Et avec quels effectifs? Quels sont leurs moyens financiers? Quels sont leurs amis? Qui sont les ennemis? Et encore, quelle guerre ils ont menée? Et de quelle manière? Et autre chose du même genre, comment serons-nous en mesure de faire leur éloge, etc., etc. Il s'agit de la bataille de Salamine, de la bataille de Marathon. Alors, nous voyons bien combien l'argumentation propre à l'art oratoire suppose des données qui, elles, ne relèvent pas du tout d'une logique suprême, mais de circonstances qui sont elles-mêmes d'une très grande complexité et dont il faut en quelque sorte dénouer les chevaux. Hein. Retenons ceci, que l'argumentation, encore une fois, l'argumentation propre à la rhétorique ne relève pas de la démonstration rationnelle pure. Il y a une certaine impureté. Alors cette impureté, elle tient à ceci, elle tient à la condition humaine. C'est-à-dire que les hommes sont engagés dans des événements qu'ils ne peuvent pas prévoir, dans des zones d'incertitude. Hein. Une stratégie peut toujours se construire, mais elle rencontre toute une série de difficultés. Donc c'est bien cette précarité de la condition humaine, ou plutôt des sociétés humaines, qui explique, je dirais, le flottement, parfois les ambiguïtés de la parole rhétorique. Elle les épouse, la parole rhétorique épouse ces circonstances dont certaines sont imprévisibles. Alors, je reviens à l'essentiel, mais nous retrouvons le même thème. Rappelons donc que la finalité du discours vise l'auditeur. Hein, et cet art oratoire, propre à la cité d'Athènes par exemple, se présente sur trois formes, se présente lors de trois formes institutionnelles. D'où la différenciation entre le discours délibératif, qui vise à exhorter ou à dissuader. Telle action. Exhorter à une action, dissuader, positif, négatif. La deuxième forme de l'art oratoire, c'est le judiciaire. Dans la pratique judiciaire, il s'agit d'accuser ou de défendre. Toujours positif, négatif. Le troisième genre de discours, c'est l'épidictique. L'épidictique consiste à louanger ou à blâmer. Alors, revenons maintenant à ce qui caractérise ces deux plus une pratique oratoire, non pas du point de vue de l'espace institutionnel, mais du point de vue du temps. Alors ça devient tout à fait, pour moi, tout à fait intéressant. La fin, c'est bien telos, une visée qui concerne l'auditeur. Or, l'auditeur est nécessairement, je lis, soit spectateur, soit juge, et s'il est juge, c'est ou bien de fait passé, ou bien de fait à venir. Celui qui juge de fait futur, c'est par exemple le membre de l'assemblée. Pour les faits passés, c'est par exemple le juré, tandis que pour la compétence de l'orateur, c'est le spectateur. C'est pourquoi, de toute nécessité, il y a trois genres de discours relevant de la rhétorique: délibératif, judiciaire, épidictique. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'orientation, ou plutôt la détermination de la parole par rapport au temps, à la temporalité humaine, à la temporalité des sociétés humaines. Alors, je vais résumer parce que je crois ne pas avoir le temps de lire. Pour ce qui concerne la délibération, on délibère sur l'avenir. Hein? On délibère sur ce qui doit être, avec le plus de justesse possible. Hein? Dans une délibération, tantôt l'on exhorte, tantôt l'on dissuade. Pour ce qui concerne le procès judiciaire, hein? Il y a d'un côté l'accusation, de l'autre la défense. Cette dialectique interne à la pratique double de la rhétorique. Car il est nécessaire que les parties adverses face soit l'une, soit l'autre. Et l'épidictique se divise en louanges et en blâmes, nous l'avons déjà vu. Alors, les temps correspondants à chacun de ces genres est dans la délibération le futur, car que l'on exhorte ou que l'on dissuade, on délibère sur ce qui sera. Dans un procès, c'est le passé, car l'accusation ou la défense porte toujours sur des actes accomplis. Et pour l'épidictique, c'est précisément le présent. Car tous ceux qui louent ou qui blâment le font en fonction de données actuelles, même si l'on ajoute souvent un rappel du passé ou une anticipation du futur. Alors peut-être le plus problématique, c'est bien l'épidectique, qui consiste à proposer un grand discours d'apparat qui concerne la louange ou le blâme. Il s'agit là de faire valoir dans le présent des valeurs. Hein. Mmh. Les valeurs constitutives de la cité, elles sont bien au présent, articulées sur un passé, le passé héroïque, sur un futur à définir en toute justice. Voilà. Et je trouve tout à fait intéressant que l'art oratoire soit présenté par Aristote précisément comme lié non seulement à la contingence des événements, nous l'avons vu pour l'argumentation, mais aussi à la contingence, des hommes, des sociétés humaines, dans un temps qui est un temps où se scandent le passé, le présent, le futur. Un mot encore, s'il y a un recours nécessaire à la rhétorique, donc c'est dans la mesure où aussi les sociétés ne peuvent pas se laisser aller à la fatalité. Dans la mesure aussi où elles ne peuvent pas se laisser aller à la violence. D'une certaine manière, la rhétorique donne sa chance à la liberté humaine. Donc on peut valoriser la rhétorique par-delà les condamnations platoniciennes. Et je voudrais terminer par vous lire. J'aurais pu prendre d'autres éléments, mais je voudrais terminer par vous lire une citation d'un logicien, philosophe, à peu près contemporain. Il est décédé depuis quelques années. Le texte est de 1956 et il s'agit de Chaim Perelman. La citation est en français, il est francophone. Eh bien, Perelman, je dirais, analyse et formalise de manière tout à fait passionnante pour moi ce dont il était question ici. Je lis, je cite, « Seule l'existence d'une argumentation qui ne soit ni contraignante ni arbitraire accorde un sens à la liberté humaine, condition d'un choix raisonnable. C'est grâce à la possibilité d'une argumentation qui fournit des raisons, mais des raisons non contraignantes, qu'il est possible d'échapper au dilemme. » Alors, quel est le dilemme? Deux points. Adhésion à une vérité objectivement et universellement valable, par exemple les mathématiques, ou recours à la suggestion et à la violence pour faire admettre ses opinions ou ses décisions.
Merci à vous Françoise, donc pour la conclusion de ces deux émissions, l'art du discours.
Merci. Je vous remercie.
Partagez vos événements sur notre antenne en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.